En général, quand on fait son autobiographie, on essaie d'enjoliver sa vie, de se mettre en valeur. Ce qui est surprenant avec le livre de Thierry Ardisson, c'est que c'est plutôt le contraire. Et il parle franchement, il parle vrai. Thierry Ardisson, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous publiez Confession d'un baby boomer chez Flammarion. Vous avez voulu montrer quoi à travers cette autobiographie? Parce que on n'a pas le sentiment que ça vous serve beaucoup finalement. Ça enjolive pas votre image.
Non, c'est un truc que j'ai fait pour moi. Je me suis retourné sur ma vie, ce que j'avais jamais fait finalement. J'avais toujours vécu à 100 à l'heure. Et puis il y a 3 ans, j'ai un peu flippé de me retrouver uniquement animateur de télé.
C'est pas bien animateur de télé.
Non, c'est très bien. Non, quand on sait faire que ça, c'est très bien. Mais quand on sait faire d'autres choses, c'est dommage. Donc je me suis retrouvé animateur de télé. J'ai un peu flippé. J'étais un peu comme le rat dans sa roue, quoi. Je faisais des émissions comme ça. Je faisais plus de. J'écrivais plus de livres. Mes projets de cinéma avançaient pas. Voilà, donc j'ai décidé de me pencher sur ma vie et de voir ce que j'avais fait, mon parcours et tout. Et voilà, moi je me marre bien en lisant mes échecs. C'est vrai qu'il y a plus d'échecs que de succès. Et quand mon éditeur a lu la première version, il m'a dit, écoute, il faut quand même que tu racontes deux, trois succès. Parce que là, franchement, c'est... Moi j'aime bien les échecs. Mais d'abord, c'est drôle, c'est picaresque. Ouais. Je raconte ça sur un ton marrant, quoi. Je veux dire, c'est des aventures. C'est un peu noodle dans les médias.
Mais quand on lit ce livre, on a un peu le sentiment, on va le détailler tout à l'heure, hein, on a un peu le sentiment que vous êtes un miraculé. Que ce soit la drogue, que ce soit les tentatives de suicide, que ce soit... On a l'impression que vous avez beaucoup essayé de vous détruire.
Ouais. Ouais, c'est vrai. Bah oui, mais je m'en suis aperçu. C'est en faisant... Bon, j'aurais pu faire une psychanalyse, mais enfin, c'est en faisant ce genre d'exercice qu'on comprend qui on est, quoi. Et c'est vrai que j'ai beaucoup flirté avec la mort. D'ailleurs, ce livre est assez imprégné de la mort, puisque mon père, malheureusement, a disparu au moment où j'étais en train de le terminer. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que je ne suis pas passé loin à chaque fois du précipice, mais je m'en suis toujours sorti, je vais très bien.
Ça veut dire que vous êtes mal dans votre peau?
Oui, mais enfin ça, je pense que tous les gens qui sont un peu créatifs, qui sont un peu inventifs, ne sont pas spécialement bien dans leur peau. Moi, je raconte dans le livre, à un moment, je fais une tentative de suicide à l'âge de 20 ans, et puis le toubib me dit, bon, on peut vous soigner, on va vous donner des médicaments, on va vous faire de la psychothérapie, etc., mais vous allez devenir normal. Et moi, je dis, non, je préfère être dingue.
Et aujourd'hui, vous êtes dingue?
Oui, je suis dingue, ouais. Mais je me contrôle beaucoup mieux qu'avant, quoi. Je veux dire, je suis un dingue civilisé.
C'est une force?
Bon, dans le monde moderne, vous mettez dingue, hein, parce qu'il est tellement dingue que quand on est normal, ça doit être terrible.
Alors, on va voir si vous êtes vraiment dingue, puisque Faustine Bollaert s'est attachée à dresser votre portrait, donc n'hésitez pas à réagir. Faustine se charge de vous.
Thierry, remembering, il y a environ 7 ans, j'étais venue avec témérité vous demander un boulot. Fin de compassion, vous m'aviez écouté me débattre avec mes rêves de gloire internationale. Aujourd'hui, je saisis l'occasion pour mettre un terme à vos insupportables nuits blanches. Oui, j'ai enfin trouvé un travail. Enfin, pour le moment. Thierry, vous avez déclaré avoir écrit votre autobiographie pour que les jeunes de 25 ans ne vous voit pas seulement comme l'animateur de Tout le monde en parle. Alors j'ai moi-même 26 ans, j'ai donc décidé de faire un audit auprès de mes potes. Voici le résultat. Pour les filles, Thierry, vous êtes avant tout le porte-parole officiel du syndicat de défense des clubs échangistes.
Ouais.
Au passage, méfiez-vous, Patrick Sébastien est en train d'essayer de vous gueuler le job. Pour les mecs, vous êtes surtout le génie qui a créé Entrevue et permis à toute une génération de prépubères de mater des bimbos à poil dans le métro sans se faire traiter de pervers. Enfin, pour les deux tendus qui restent, vous êtes un véritable héros. Ça fait des années que vous emballez les femmes des autres face caméra sans jamais vous prendre de pain dans la tronche. D'ailleurs, un certain D. Ducruette m'a demandé de vous transmettre ses félicitations. À l'unanimité, donc, Thierry, plus qu'un simple man in black au hochement de tête pigeonnant, vous êtes une véritable institution. La preuve aujourd'hui, on parle Ardisson. Récemment, dans une interview, Jean-Marc a demandé à De Taroli s'il suçait, s'était trompé. C'est casse-gueule, quand même. On bouffe également du Ardisson, ou plutôt on vous regarde vous baffrer dans votre appartement guémardien de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Au passage, c'est bien gentil d'inviter le téléspectateur à se joindre à vos dîners en ville, mais faudrait penser parfois à nous jeter les restes de vos confits de canard 3 étoiles. C'est pas très fête de l'humat de se rincer la panse devant les abonnés McDo. D'un coup, je comprends mieux pourquoi vous avez créé le magazine J'économise. Tout s'explique. Quoique non, il y a un truc que je n'explique pas, Thierry. Comment se fait-il qu'on ne vous voit jamais en dehors de votre rôle de mec de télé, comme un people lambda à la une de Voici? Le public sait pas si vous allez à Ikea le dimanche, si vous loukoumez en jogging troué en matant d'Eric, si vous vous coupez les ongles de pied en écoutant un vieux CD de Sheila. Pardon, c'est un pléonasme. Vous êtes un homme abstrait. En bref, vous êtes un mélange entre Jacques Dutronc, le Marquis de Sade et le Schtroumpf Grognon. C'est bien résumé, non?
Oui, c'est pas mal, oui. Voilà pourquoi j'ai fait ce livre. Parce que pour les gens, effectivement, ils me connaissent à travers la télévision, hein, beaucoup. Ils me connaissent à travers cette histoire de boîte échangiste où je ne passe pas ma vie, malheureusement.
Malheureusement, vraiment?
Oui, parce que je suis marié, père de famille, et que voilà, je suis un garçon très sérieux.
Et c'est chiant d'être marié, alors?
Non, non, non. Ça m'apporte plus que ce que ça me prend.
On plonge dans votre enfance dès le début du livre. On s'aperçoit que votre enfance n'a pas été facile et vous avez eu des problèmes relationnels avec vos parents, en particulier entre 20 et 30 ans. Vous ne leur avez quasiment pas parlé.
Oui, oui, c'est vrai. J'ai assez souffert de cette enfance où mon père nous avait amené sa mère, donc la belle-mère de ma mère. Ça crée une situation assez classique. Hein. C'est même extraordinaire. Mais enfin, disons que moi, je l'ai plutôt mal vécu. Et j'ai vécu une envie, c'était de me barrer. Donc, je me suis barré à l'âge de 16 ans. Je suis revenu une dizaine d'années après, ayant fait le tour des choses, et ça, après, ça a été très bien avec mes parents, et maintenant tout va bien. Enfin, c'est vrai que j'ai eu comme ça. Mais c'est bien, moi, je trouve, de se rebeller contre sa famille, contre la... Bon, c'était l'époque, c'est 68 aussi, tout ça. Il y avait comme ça une espèce d'énorme rébellion, mais je suis content de l'avoir vécu. C'est fondateur pour moi, ça.
Mais c'est dur quand même, quand on est aussi jeune, malgré tout, de couper les liens avec sa famille. Est-ce que ça marque pour une vie?
Clairement, oui. Clairement, c'est sûr que, voilà, je me suis retrouvé à Paris tout seul, je connaissais personne, j'avais pas de rond, voilà, mais c'est drôle.
Le point de départ de votre vie professionnelle, c'est à 17 ans, quand vous rencontrez sur une plage de Juan-les-Pins un patron de nuit qui va faire de vous un DJ.
Incroyable, incroyable, et en fait, voilà, quand je disais tout à l'heure, je me suis retourné sur ma vie, je pensais que le climax de ma vie, que le moment le plus important de ma vie, c'était mon passage chez Pivot, apostrophe, pour mon livre Louis XX, et je pensais que c'était le sommet de ma vie, quoi. Et en fait, pas du tout. La vraie date importante, c'est que je suis sur la plage, j'ai eu le bac, mes parents m'ont filé un peu d'argent, je suis là, je m'ennuie, voilà. Et puis il y a un mec qui passe, pour me draguer au départ, hein, faut être clair, quoi. Pour me draguer, il me dit, moi, je voulais être disque jockey au whisky à gogo. Et voilà, ma vie a basculé, j'ai connu la nuit, j'ai connu la folie.
Alors, la nuit avec les difficultés de la nuit, c'est-à-dire la drogue, le sexe, vous parlez beaucoup de drogue dans ce livre.
Ouais.
C'est ce qui peut surprendre peut-être les gens qui vous connaissent pas vraiment. Vous parlez de cocaïne, vous parlez d'héroïne, et vous expliquez clairement que vous êtes tombé là-dedans de façon très violente.
Oui, ouais, moi je suis un obsessionnel, en plus je suis un jusqu'au boutiste, donc quand je fais un truc, je le fais à fond. Maintenant c'est les check-up et les médicaments, mais je le fais avec la même...
Vous racontez Bali, par exemple, en 1974, vous dites que vous plongez dans l'héroïne, la cocaïne, vous vous défoncez, vous n'êtes plus que l'ombre de vous-même.
Oui, c'était l'époque aussi, Jean-Marc, hein, faut voir. Hein. Je veux dire, par là, maintenant, les jeunes sont plus avertis, disons. Nous, on a été la première génération qui a été face à la drogue en vente libre, disons, quoi. Donc, vous savez, l'héroïne, la cocaïne, dans les années 20, dans les années 30, c'était réservé à une élite, quoi. Il y a eu une vraie démocratisation de la drogue à la fin des années 60, et nous, notre génération, on s'est pris ça dans la gueule, quoi. Mais bon... Il y en a plein qui sont morts. Moi, je m'en suis sorti sans séquelles, donc aujourd'hui, ça reste une expérience.
Mais ça a duré longtemps quand même, hein, ces années avec la drogue, parce que vous...
Ça a duré réellement, l'héroïne, ça a duré 3 ans, la cocaïne un peu plus longtemps, mais enfin voilà, tout ça, ça fait 10 ans que...
Ouais, parce...
plus de 10 ans que je ne prends rien du tout et je me porte mieux. Donc...
C'est pas grand-chose, 10 ans en même temps.
Non, ouais, non.
Parce que vous racontez les années 80, hein, l'arrivée de la gauche au pouvoir, et vous dites qu'à ce moment-là, vous passiez votre temps dans le champagne, la coke, vous dites la victoire de Mitterrand ne change pas grand-chose, je continue à engranger du fric, à faire des papiers, à baiser toute la nuit.
Ah ouais, c'était mon époque fame and fortune, mon époque business, mon époque... Voilà, mais moi, vous savez, j'ai surfé sur quatre décennies, et chaque décennie, j'étais là où il fallait être, quoi. C'est-à-dire, dans les années 70, j'étais à Bali, dans les années 80, je faisais du business. Enfin, je veux dire, j'ai toujours vécu ma vie comme un roman, donc, et avec des aventures, des chapitres, en fait. Et quand on lit le bouquin, on s'aperçoit que ma vie, comme ça, c'est des chapitres les uns après les autres, et chacun est différent du précédent.
Ouais. Philippe Kieffer, qui vous interroge d'ailleurs, à certains moments, on a l'impression qu'il met en doute ce que vous dites.
C'est pour ça.
C'est-à-dire qu'il dit, bon, là Thierry, t'exagères, voilà. C'est bon, t'en fais trop.
C'est pour ça que j'ai voulu Philippe Kieffer, parce que c'est un professionnel vraiment très respecté. Hein. Il a été 12 ans responsable du service média à Libération. Je voulais quelqu'un qui témoigne, parce que je savais que quand je raconterais certains trucs, le mec... Enfin, si j'avais écrit moi ce bouquin à la première personne, les gens auraient dit, nous raconte des conneries.
Mais vous n'en faites pas trop, y compris quand vous racontez votre plongée dans la drogue, etc. Tout ça, c'est vrai, c'était à ce point-là.
Bah, tout ça,
vous étiez accro à ce point-là.
Tout ça, bien sûr, mais j'ai fait un roman au début des années 80 qui s'appelle Rive Droite, où j'avais... Bon, c'était un personnage, c'était pas moi. Enfin, disons que je disais déjà tout ça. Je veux dire, j'ai pris Kieffer parce que quand je lui raconte des trucs, à un moment, j'ai dit, tu vois, à l'âge de 5 ans, j'étais à la une du Dauphiné Libéré, c'était ma première exposition médiatique. Le mec, il dit, ouais, et puis une semaine après, je lui apporte la une du Dauphiné Libéré de l'époque, donc c'est les années 50, hein. Et il dit, ah bon, c'est vrai, bah. C'était très important qu'il y ait quelqu'un qui témoigne de la véracité de ce que je raconte, quoi. C'était qu'on n'aille pas à dire que...
Alors moi, il y a un passage qui m'a étonné dans ce livre, entre autres, c'est quand vous racontez comment vous avez réussi à décrocher de la drogue aux États-Unis.
Ouais.
Et vous dites qu'à ce moment-là, vous avez trouvé la foi.
Oui, je me suis dit, on se raccroche, alors, on se raccroche à ce qu'on peut.
Mais vous l'avez gardé, visiblement.
Oui, tout à fait. Mais disons qu'au départ, j'ai eu une foi, je dirais, papiste, un peu la foi du charbonnier, quoi, parce qu'il fallait que je m'en raccroche à quelque chose. Ensuite, j'ai été, comme je dis, catholique, maintenant chrétien, tendance Marie-Madeleine parfois. Voilà, mais enfin, disons que
mais
j'ai
retrouvé
la foi de mon enfant, ouais. Enfin, j'ai retrouvé la religion. Oui.
Ça ne va quand même pas du tout avec la vie que vous avez vécue, cette vie de débauche que vous avez eue. Tout à coup, là, vous dites...
Vous savez, Saint-Vincent de Paul, avant de se réfugier dans le désert saharien, il a mené une vie de folie à Paris. Vous savez, la religion, ça ne veut pas dire obligatoirement, c'est pas lié obligatoirement à une vie puritaine.
Non, en même temps, si on respecte les règles de la religion, c'est plutôt une vie puritaine.
Oui, mais enfin, vous savez...
Vous êtes quand même à l'opposé de ça.
Pas vraiment, non, pas vraiment.
En quoi vous n'êtes pas ?
Ben non, je vous dis, je suis un bon père de famille, je travaille, je gagne ma vie, je paye mes impôts, je suis tout à fait, un type rangé.
Ouais. Aujourd'hui, depuis 10 ans, vous l'avez dit, en gros.
Depuis plus de 10 ans.
Ouais. Mais ça veut dire qu'avant, vous avez vécu dans le péché ?
Oui, pour moi, c'est pas ça le péché. Pour moi, le péché, c'est de faire habiter des noirs dans des immeubles insalubres. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Moi, le péché, c'est pas de boire du champagne et de prendre de la coke. Ça, c'est des conneries.
Vous parlez des années 80 aussi, où c'est ces années-là où vous allez être attiré par la télévision. Alors, bon, on voit dans ce livre, enfin, vous passez en revue pas mal de choses. Et c'est vrai, quand on aime la télé, en plus, c'est intéressant parce qu'on revit pas mal d'époques. Vous taillez quelques costards également. Bon, il y a des choses qui m'ont.
Pas trop.
Non, au moment où vous produisez Star à la barre, par exemple, pour France 2, la direction veut que Roger Zabel soit le présentateur. Et vous répondez, vous ne pouvez pas nous filer Zabel, ce mec est gentil mais inculte.
Bah oui, c'est vrai. c'est pas un livre de balance sur la télé. Les gens qui s'attendent à y trouver mon avis sur Pierre, Paul ou Jacques vont être très déçus. Je raconte mes aventures picaresques dans le monde de la télévision. Comment le premier jour je voulais pas rentrer sur le plateau, comment j'ai inventé lunettes noires en 30 secondes. Enfin, je veux dire, je raconte ça parce que c'est intéressant pour les gens de voir la télé de l'intérieur par quelqu'un qui en est un des acteurs.
Non.
Je vais dire important, exagérant même, enfin des acteurs depuis longtemps, disons.
Par rapport à Zabel, donc c'est lui qui devient présentateur de Star à la barre.
Ouais.
Puis c'est Daniel Bilalian. Alors vous dites que ce choix est fait finalement en désespoir de cause. Vous dites c'est ni PPDA ni Durand, mais c'est toujours mieux que Zabel.
Bah oui. Parce qu'on avait travaillé en fait avec Catherine Barma, on a fait beaucoup pour l'infotainment en France à cette époque-là. Mmh. Et c'est vrai qu'on avait inventé avec Poivre d'Arvor La Folie Pas du Tout, ensuite Face à France avec Durand. Et c'est vrai qu'après, bon, quand on a connu, enfin Guillaume à l'époque, c'était un super présentateur de ce type d'émission, disons. Et c'est vrai qu'on était très déçus de se retrouver avec Bilalian, mais ça n'enlève rien à son talent.
Si vous êtes devenu politiquement correct.
Pas tellement.
quand vous dites, vous parlez de La Folie Pas du Tout, là. On a eu Patrick Poivre d'Arvor.
Il raconte, c'est très marrant, ça, vous avez vu.
Qui parle de son livre Confession, où il parle justement.
Il raconte la même histoire.
Exactement.
Mais alors, c'est pas du tout la même chose.
C'est ce que j'allais
dire. C'est marrant.
Donc,
hein.
il raconte en fait cette
c'est
émission.
C'est Patrick, on l'adore, mais il est un peu mytho.
On va préciser peut-être. Il est un peu mytho.
Bah oui. Bon oui, tout le monde le sait, je veux dire, non.
Je sais pas.
Ah bon ? Oui, c'est vous qui êtes politiquement correct. Hein.
Moi je vous écoute, c'est vous qui parlez. Hein. Bon, vous racontez aussi votre expérience avec Christine Bravo dans Froufrou. Ouais. Ça commence bien, mais très vite elle commence à vous détester, à détester tout le monde. Vous pensez qu'elle avait pété les plombs à cette époque ?
Bah, je pense que si vous voulez, c'est un peu les diptynèques, quoi. C'est-à-dire qu'elle s'en est prise systématiquement à toutes les chroniqueuses qui étaient autour de la table, et elle a fait à la fin, cette émission est morte de sa belle mort, évidemment, puisqu'il n'y avait plus personne. La première étant Tina Kieffer, donc elle s'en est prise à Tina, puis après ça a continué, il y en avait une par mois, disons, qui dégageait, donc au bout d'un moment, effectivement, c'était... Il n'y a plus d'émission.
Il y a une scène qui m'amuse beaucoup aussi. Vous avez créé entrevue à un magazine qui écharpe régulièrement TF1. Et vous racontez une scène dans le bureau de Patrick Lelay. Parce que vous cherchiez du travail. Vous pouvez nous raconter
ça? Oui, j'avais plus de boulot. Je m'étais fait virer donc de France 2. J'avais plus de boulot. Et puis je vais voir Lelay et je lui dis voilà. Puis pour essayer de me mettre bien avec lui, je lui dis vous savez, mon père était dans les travaux publics et tout. En espérant que la maison Bouygues allait reconnaître un de ses fils. Et enfin, mon père n'était pas chez Bouygues, mais une grosse boîte comme ça. Quoi. Tu savais, mon père était dans les travaux publics. Enfin, voilà. Et puis il me laisse parler. Je me dis tiens, voilà un type intelligent avec qui je vais bien et à ce moment-là, il sort de son tiroir un numéro d'entrevue où il y avait marqué en couverture tout sur les escrocs de TF1. Donc, j'ai compris qu'il fallait que je vende le journal si je voulais refaire la télévision, donc j'ai vendu malheureusement parce que je serais milliardaire.
Mais... C'est quoi votre regard sur TF1 aujourd'hui ?
Ben non, mais TF1, moi j'ai aucun problème avec TF1. TF1, ils sont là pour gagner du pognon. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est que l'actionnaire soit
aussi
content. Oui, moi aussi, non, mais ce que je veux dire, c'est que l'ambition de TF1, c'est de gagner de l'argent et d'enrichir les actionnaires. Donc tout ce qu'ils font dans ce but-là est bien, que je voulais que je vous dise. Moi, je suis sur le service public depuis 20 ans parce que moi, je pense que la télé peut servir à autre chose qu'enrichir les actionnaires.
Mais vous gagneriez plus d'argent sans doute en étant sur TF1.
Mais à l'époque où j'ai eu des propositions de mon ami Étienne Moujotte, il était question que je gagne beaucoup plus d'argent, Jean-Marc. Mais encore une fois, je raconte dans le livre d'ailleurs, beaucoup de choses que j'ai fait pour le pognon m'ont pas réussi. Est-ce que j'ai fait de mieux dans ma vie finalement? C'est Rive Droite, Rive Gauche, où j'ai été misérablement payé. C'est Louis XX, où tout le monde m'a dit un livre sur la monarchie, ça marchera jamais. C'est-à-dire que finalement, ce qui est très instructif quand on regarde le livre, c'est que c'est pas les choses que j'ai fait pour le pognon qui m'ont apporté le plus et qui finalement m'ont le plus servi. Parce que Rive Droite m'a permis, Rive Droite, Rive Gauche m'a permis de revenir à la télé blanchi.
Et ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes bien sur le service public, vous n'avez pas envie d'en bouger.
Non, très heureux, franchement. Et l'arrivée de Carolis et Duhamel est une très bonne chose parce que Moi, je pense, et je l'ai dit, c'est pas à propos de circonstances, parce que je l'ai souvent dit, c'est même dans le livre, d'ailleurs, je pense que la télévision est un spectacle, mais aussi une école. Et je pense que France 2, par exemple, se situe à équidistance entre TF1 et Arte, et que notre boulot à nous, c'est de spectaculariser la culture. Et que finalement, c'est là que c'est difficile. C'est pas de faire de la culture qui fait 7%, et c'est pas de faire de la dope qui fait 40%. Ce qui est difficile, c'est de mettre en image, de spectaculariser la culture, et d'arriver à faire comme nous la semaine dernière, avec Michel Houellebecq, 38 minutes de Michel Houellebecq, un samedi soir à minuit, on fait 28,5 de part de marché, qui est la meilleure audience de France 2 en deuxième partie de soirée cette semaine-là. Donc voilà, moi je considère, si vous voulez, que là il y a un pari, il y a un challenge, que Carolis a l'air d'avoir envie de prendre, allons-y. Hein.
Et on se souvient pas d'ailleurs, en général, que tout le monde en parle, au début était un peu une catastrophe.
Une grande catastrophe.
Voilà, et c'est Catherine Barma finalement qui a sauvé l'émission.
Tout à fait, j'avais arrêté de travailler avec Catherine, mal m'en a pris finalement, puisque quand j'ai arrêté, j'ai commencé à avoir des soucis, et quand j'ai recommencé, ça a commencé à remarcher, donc c'est un peu valable pour elle aussi d'ailleurs. Ce que je veux dire simplement, c'est que là, au bout de 3 mois, c'est une catastrophe. Duhamel était le patron à l'époque de France 2, il me dit je vais arrêter ton émission. Je dis non, écoute Patrice, ça fait 3 ans que je suis au bord de la route, si tu m'arrêtes au bout de 3 mois, je suis mort. Et à ce moment-là, il me dit mais qu'est-ce que tu veux que je fasse mon pauvre ami? Je dis écoute, je sais pas, je vais prendre Catherine Barma. Et il connaissait Catherine de la 5, il la respecte beaucoup. Donc on a pris Catherine, on a pris Ruquier comme sniper, et là on est passé de 17 à 34, je crois que c'est rarissime, c'est la première fois qu'une émission double sa part de marché. Uniquement comme ça. Et c'est vrai que, voilà, c'est vrai que dans ce livre, je raconte tout ça.
Et avec Ardisson Ruquier, d'ailleurs, il y a les Family News,
ouais.
Cette émission qui était sur TF1, qui a fait une semaine,
ouais.
Qui était une cata.
Oui, c'est une cata, c'est moi qui l'ai arrêté, ça c'est un truc que m'a appris Daniel Filipacchi, d'ailleurs, c'est arrêter un journal qui marche pas, quoi. Et au bout d'une semaine, l'émission marchait pas, tout le monde me disait, mais on va continuer, tu vas voir, il faut donner du temps au temps, c'est le genre de conneries qu'on dit dans ces moments-là, à la télévision comme ailleurs. J'ai dit, non, on va pas donner du temps au temps, on va l'arrêter tout de suite, parce que lundi, il y a Drucker qui revient, on va se faire défoncer la gueule, donc j'ai arrêté.
Voilà, Drucker qui revenait sur France 2.
Voilà. Et puis ce qui est marrant dans la vie, c'est qu'après on a tout essayé avec Laurent Ruquier, qui est un gros succès à la même heure sur France 2 depuis des années, quoi, comme quoi, vous voyez. C'est...
Alors dans un instant on ira au standard avec les questions des auditeurs au 01 42 32 15 15. Dernière question forcément incontournable, c'est vos rapports avec Marc-Olivier Fogiel.
Oui.
Je vous propose d'écouter Marc-Olivier Fogiel, qui était notre invité il y a une semaine, à qui je demandais si un jour vous finiriez par vous réconcilier.
Non.
Moi, j'ai entendu une fois sur France 2, un jour, de la bouche de Thierry Ardisson, tout ce qui était de la petite polémique des journaux qu'on alimentait peut-être d'ailleurs l'un et un peu bêtement l'autre, tout ça, ça me gênait pas. Quand j'ai vu sur France 2 dans une émission enregistrée, donc assumé, en le laissant en montage, Marc-Olivier Fogiel a un god greffé sur son siège, de la bouche de Thierry Ardisson, je me suis dit, là, franchement, ça dépasse l'intelligence, les petites guerres un peu idiotes. Je me suis dit, voilà, j'ai pas très envie de discuter avec Thierry Ardisson dans la vie. Il y a plein de gens sympathiques par ailleurs. J'aime pas être insulté sur l'antenne de France 2 de façon délibérée en assumant le fait.
Voilà, on peut le comprendre, non, quand même, c'est un peu violent.
Oui, sauf que c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jean-Louis Murat, mais enfin, c'est pas grave. Enfin, non, c'est vrai que Jean-Louis Murat a dit ça. Et effectivement, je ne l'ai pas coupé au montage. Enfin, c'est pas moi
Pourquoi
qui l'ai dit. Pourquoi j'ai pas coupé au montage? Parce qu'on coupe pas au montage beaucoup de choses, contrairement à ce que les gens racontent.
Et donc la paix avec Ardisson, avec Fogiel, pardon, la paix Ardisson.
La paix avec Ardisson, c'est pas sûr du tout. Oui, et la paix avec Fogiel, c'est encore moins sûr. Ouais, voilà.
C'est l'air jamais, c'est pas d'actualité.
Mais pourquoi voulez-vous? Non, voilà, on va pas reparler de ça à chaque fois. Bon, enfin, d'ailleurs, je m'en suis souvent expliqué. Je pense que ce garçon a eu beaucoup de chance. Il a bénéficié de la part de la direction précédente d'une grande mensuétude.
Alors, lui dit que c'est pas vrai, par exemple, il y a eu des bruits et des rumeurs qui couraient selon le fait qu'il devait finir à 23h45 son émission, que c'était par contrat. Lui dément, visiblement la direction dément aussi.
Quand je faisais des prime time, et tous les gens qui font des prime time sur France Télévisions, on leur demande de s'arrêter à 11h du soir. Lui, il a le droit d'aller à 23h45, ce qui lui permet de faire 15 au lieu de 12. Et s'il était dans la durée normale d'un prime time, il ferait 12 et son émission aurait été arrêtée depuis longtemps. J'appelle ça de la mensuétude de la part de la direction précédente. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'autre mot. Je veux dire, moi, quand je faisais des prime time, à 11h du soir, il y avait Arlette Chabot qui téléphonait en disant « Thierry, passez-moi l'antenne ». Lui, apparemment, il a le droit d'aller jusqu'à minuit, c'est tout. Donc il y a deux poids et deux mesures, et c'est ça que je supporte pas. C'est le manque d'équité, voilà. Moi, quand j'étais petit, quand il y avait une pomme, on en donnait la moitié à moi, la moitié à mon frère. Là, il y a trois... Enfin, à l'époque de la direction précédente, il y avait trois quarts de la pomme pour Fogiel et un quart pour Ardisson.
Pourquoi? D'après vous?
Parce que, comme ça, il bénéficiait de la mensuétude de la direction précédente, c'est tout ce que j'ai à dire.
Jean-Marc Morandini.
Thierry Ardisson publie les confessions d'un baby boomer chez Flammarion. Il répond maintenant à vos questions 01 42 32 15 15. Daniel, bonjour.
Oui, bonjour à tous.
Bonjour Daniel. Thierry vous écoute.
Thierry, donc avant toute chose, je voulais vous dire que je vous ai vu hier soir dans l'émission de Laurent Ruquier en bébé, une photo de bébé, et que vous étiez un très beau bébé, dodu, bien rond.
Ça a changé, hein.
Là, je suis toujours dodu et bien rond, mais je suis plein bébé.
J'ai trouvé la réponse avant les chroniqueurs, je suis très contente.
Ah, merci. C'était le jeu de fin hein, de l'émission.
C'était le jeu de fin avec Kikabuki. Bon, j'appelle donc, il faut faire le tri dans votre carrière qui est très riche. Donc moi, je vais vous parler de votre émission « Tout le monde en parle ouais. ». Je la regarde très régulièrement, j'aime beaucoup cette émission. J'aime beaucoup votre complicité avec Laurent Baffy. Mais j'ai deux questions à vous poser.
Allez-y. Oui.
Alors la première, pourquoi est-ce que vous ne travaillez pas en direct ?
Parce que quand on parle, on ne dit pas que des choses intéressantes. Moi, les gens, par exemple, des fois, il faut que je leur pose trois fois la question pour qu'ils répondent vraiment. Donc, je prends la première fois que je pose la question et la dernière fois qu'ils y répondent. Voilà, je pense que si cette émission fait de tels scores à cette heure-là, c'est parce qu'elle va plus vite que la vraie vie. Et que si elle était au rythme de la vie, elle ne ferait pas ça. Quoi. Je crois que c'est bigger than life, comme on dit en anglais. C'est pour couper les digressions, les redites, les apartés, enfin, tout ce qui n'est pas utile et intéressant, voilà.
Deuxième question.
J'ai fait du direct, d'ailleurs j'en ai fait avec Michel Drucker, on a fait un prime time, ouais. On a deux prime time tous les deux. J'ai trouvé ça très marrant, j'étais là à 20h30 en direct, ouais, c'est pas que je refuse.
Vous devriez recourir un moment que vous envisagiez peut-être de faire tout le monde en parlant en direct, c'est sûr ou pas ?
Oui, on y a pensé parce que Catherine Barma m'a dit, mais enfin finalement quand tu fais des 20h50 avec Drucker en direct, c'est très bien. Voilà. Le problème c'est que d'abord on ne pourrait pas couper toutes les petites choses qu'on coupe, là, toutes ces choses inutiles qu'on coupe. Et puis ensuite, c'est une émission qui passe quand même tard, et je ne pense pas que les invités qu'on a, qui sont extrêmement prestigieux, accepteraient de venir à la Plaine Saint-Denis, dans un hangar pourri, le samedi soir à 1h du matin.
Merci, Daniel. Ah, deuxième question, Daniel, pardon.
Question. Allez-y. Donc, la semaine dernière, j'ai regardé comme d'habitude, vous aviez parmi vos invités Michel Houellebecq,
ouais.
Et moi je me demande pourquoi il n'est pas venu sur le plateau avec les autres invités, pourquoi vous l'avez reçu dans une loge ?
Je l'ai reçu dans une loge. Vous êtes de Lyon, de où ?
Non, je suis de la Drôme.
Ah, de la Drôme, ouais, d'accord, j'aime bien l'accent. Non,
je vais pas... l'accent, mais je ne savais pas.
Mais si, Daniel, je suis désolé de vous le
un
dire.
Un petit accent, tout de suite.
C'est moins grave que les Québécois, rassurez-vous. Non, en fait, on l'a tourné une semaine avant, pour être tout à fait franc. Parce que Houellebecq n'était pas en France le jeudi soir.
D'accord.
Donc on l'a tourné une semaine avant, et c'est pour ça que je l'ai tourné dans la loge.
C'était dommage qu'il échappe à ma fille.
Oui,
mais vous savez,
Houellebecq, c'est déjà génial de l'avoir.
En plus, écoutez, moi, votre interview était très bien, alors je l'ai trouvé d'un sinistre, ce gars.
Ah ouais.
Affreux.
Ah, il est pas gay, hein, c'est
sûr. Ah là, il est pas gay, hein, c'est le moins qu'on puisse dire.
Son livre, lisez quand même son livre.
Écoutez, bizarrement, souvent, lorsque vous présentez des bouquins, j'ai très envie de les lire.
Ouais.
Et le sien, bah, écoutez, je me demande. Hein.
Ah, c'est un peu déprimiste. Vous allez acheter le mien, alors?
Ah, bah, je vais acheter le vôtre, c'est sûr.
C'est l'ardition au service après-vente. Ouais, merci, Daniel.
Énorme.
Au revoir.
Nicolas, bonjour.
Oui, bonjour, Normal. Bonjour, Thierry. Bonjour. Pour moi, parce que je suis fan depuis 12 ans, depuis mes 12 ans, je vous regarde. Et j'ai aussi deux questions. La première, c'est au niveau des primes,
ouais.
Des prime time, comme on dit maintenant.
Ouais.
Vous avez quand même eu quelques échecs d'audience, alors que les émissions étaient quand même pas mal. Est-ce que vous avez encore des projets à ce niveau-là ?
Non, vous savez, là, ce que je dis d'ailleurs, c'est que. J'ai monté une société de production de films de cinéma. Et finalement, je préfère mettre mon énergie là-dedans que dans les prime time, parce que ce qui se passe, d'abord, moi, je fous que je m'en fais 11h. Et c'est pas comme tout le monde. Et ensuite, si vous voulez, c'est vrai que des émissions, une émission comme Opinion Publique était vachement bien, quoi. Moi, j'aimais beaucoup cette émission.
C'était une émission de deuxième partie de soirée.
Voilà, mais si cette émission marche pas, tant pis, je veux dire, voilà, après tout, je n'ai pas d'obligation à faire des prime time. En plus, quand je fais des prime time, je suis obligé de changer un peu ma personnalité pour être plus grand public, disons. Donc c'est pas très vrai en fait, je deviens un peu schizo si je fais ça. Donc je préfère rester le samedi soir, je suis très bien, je fais ce que je veux, je me marre bien, ça marche. Et puis si j'ai du temps libre, je fais du cinéma, voilà.
Nicolas, deuxième question.
Bah, la deuxième question, c'est ma copine et moi, on a un rêve, on est fan de 93 Faubourg Saint-Denis.
Vous avez un local?
mais c'était pour voir si on pouvait pas être invité une fois à votre table.
À votre table? Ah oui, ça c'est plus compliqué.
Au 93
oui, mais... Pardon?
Au 93 Faubourg Saint-Honoré?
Oui. On est belge, on vient...
Oula, ça n'arrange rien, monsieur.
Si vous êtes belge, c'est pas possible, Nicolas.
Ça n'arrange rien, monsieur.
Thierry n'aime pas les Belges.
Non, mais c'est pas vrai, mais pourquoi ? Non, je plaisante, vous rigolez ou quoi ? Bon. Les Belges sont beaucoup plus fous que les Français.
Merci, Nicolas, en tout cas. Merci beaucoup. Joël, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, bienvenue, Joël. Vous voulez réagir à ce qu'a dit Thierry en début d'émission, hein, je crois.
Oui, monsieur Ardisson, bonjour.
Bonjour.
Je suis très content de parler avec vous. Et je suis un féru de votre émission du samedi soir.
Merci.
Vous avez une question, allez-y. Oui.
Donc ma question était, vous avez dit tout à l'heure que c'était un gros péché pour vous de laisser les gens dans les taudis actuels, les gens de couleur.
Ben oui.
Si je ne me trompe pas, vous avez 93 Faubourg Saint-Honoré et vous vivez dans la région parisienne dans une maison qui est assez grande.
Oui.
Pourquoi éventuellement ne prendriez-vous pas quelques familles de ces gens qui sont mal logés?
Je vais vous dire, monsieur, un truc. Je paye 70% d'impôts. C'est-à-dire que quand je gagne 100 francs, il y en a 70 qui vont à l'État. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, il m'en reste que 30%. Donc moi je pense qu'avec tout le pognon qu'on file à l'État, il pourrait s'occuper de loger ces gens-là. C'est pas moi qui vais les faire habiter chez moi, ou alors j'arrête de payer des impôts, faut savoir. Alors moi je pense, quand je paye mes... Moi je me suis jamais plaint, contrairement à Florent Pagny, je me suis jamais plaint de payer des impôts. Jamais on trouvera dans ma bouche ou sous ma plume une quelconque récrimination contre le fait de payer des impôts. Je trouve ça normal de payer des impôts, j'en paye énormément et c'est normal. Maintenant si avec cet argent-là, les gens qui nous gouvernent sont pas capables de protéger ces malheureux, bah écoutez, voilà, il faut changer de gouvernement, changer de système, et c'est pas moi qui vais les recueillir chez moi, ça c'est sûr. Voilà.
Je suis d'accord avec vous, voilà. Mais vous ne croyez pas que ce serait plutôt un geste qui serait fait vis-à-vis des gouvernements, quels qu'ils soient? Vous me faites penser exactement aussi à Emmanuel Béard, qui à un moment avait tenu les mêmes propos, mais ce n'était pas la même action. Et je pense que si l'un des personnages comme vous êtes tous, bien nantis, faisait une telle action, peut-être que le gouvernement se sentirait aussi un petit peu...
Mais non, le gouvernement, si moi je logeais des Maliens dans ma propriété en Normandie, eh ben ça éviterait au gouvernement de prendre ses responsabilités. Il faut s'occuper des gens. Il y a ces gens-là, quand ils ont été virés, parce que Sarkozy, lui, il n'a rien trouvé de mieux que de les virer de là où ils habitaient tous, ces gens-là, il n'y a aucune assistante sociale qui allait les voir. Fatouma Diarra a dit dans mon émission la semaine dernière, on n'a eu aucune aide sociale à partir du moment où on est parti du boulevard Vincent Auriol. Moi, encore une fois, je dis qu'avec tout l'argent qu'ils ont, on pourrait quand même payer une aide sociale pour aller s'occuper d'eux. Enfin, c'est une charité chrétienne minimum.
Justement, sur ce sujet, on a un autre appel, celui de Céline. Bonjour Céline, 21 ans.
Oui, bonjour tout le monde. Bonjour à Kyria.
Bonjour.
Donc, moi, j'aime beaucoup votre émission et je vous aime beaucoup aussi.
Merci Céline. Moi aussi, je t'aime beaucoup.
Donc, un peu plus sérieusement, c'est par rapport à l'émission de samedi soir, toujours. Mm. Et moi, je trouve, enfin, contrairement au monsieur qui vient de parler, je vous trouve courageux d'avoir invité ces personnes, Fatouma Diarra et Tommy Dolici et compagnie, parce que moi, on a vu des reportages, il y a eu des interviews faites à la télévision, mais je regarde beaucoup la télé et j'ai vu aucun animateur inviter ces gens.
Bon.
Donc déjà, ça, je trouve que vous mettez quand même face à la réalité, je trouve ça bien.
Alors c'est juste un instant, parce que moi j'ai précisé, et puis Thierry va vous répondre, le lendemain on a eu des appels de gens qui disaient, mais comment peut-on inviter sur un plateau de télévision une femme qui a perdu ses enfants, qui a perdu ses proches, qui a perdu sa famille, est-ce qu'il n'y a pas un côté voyeur là-dessus? Et après Céline, vous reprenez la parole, Thierry.
Non, il y a un côté vouloir faire prendre conscience aux gens, parce que ces gens-là on les voit toujours dans des journaux télévisés, donc ça vient du fait divers, voilà, on vous dit un immeuble a brûlé, voilà, on voit les pompiers, on voit Sarkozy qui arrive, etc. Finalement, les gens, ça leur glisse un peu dessus. Hein. Là, j'ai voulu vraiment mettre tout le monde en face de ses responsabilités. Moi, le premier...
Mettre un visage sur l'arbre.
Voilà, montrer aux gens. Hein, la télévision, c'est comme ça. On est souvent obligé de passer par des histoires personnelles pour parler de faits généraux et abstraits. C'est comme ça, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Donc, j'ai voulu mettre le focus sur Fatouma Diarra, pour vraiment que tout le monde prenne bien conscience. Alors, Jean-Marc Morandini disait tout à l'heure, enfin c'est marrant, vous dites que vous êtes catholique, et puis vous avez pris de la coke, ou buvez du champagne. Je crois qu'être catholique, c'est pas ne pas boire de champagne, c'est se dire, moi quand j'ai vu ces gens-là à la télé, la première fois au journal télévisé, j'ai pleuré, j'étais tout seul dans mon bureau, j'ai pleuré, je me suis dit, c'est scandaleux, ils habitent à 3 km de chez nous, et finalement on les laisse crever. Donc j'ai dit, je vais me servir de mon émission, pour faire prendre conscience aux gens, voilà, mais c'est pas très courageux finalement.
Mais ça veut dire que vous avez une mission? Vous pensez avoir une mission?
Oui, j'ai une responsabilité. Je pense que quand on a, enfin sur le service public, en tous les cas c'est comme ça que je vois, je pense que j'ai une responsabilité effectivement, qui est à un moment, quand je ressens profondément quelque chose comme ça, c'est de le faire, oui, absolument.
Allez-y Céline, pardon.
Par rapport au monsieur qui a parlé tout à l'heure, je veux dire, c'est pas à Thierry Ardisson ou à Emmanuel Béat de régler les problèmes. Je veux dire, la plupart des gens, des immigrés qui étaient dans ces immeubles, donc ils ont des papiers en règle. Il y en a qui ont la nationalité française, ils travaillent, ils payent des impôts, et je veux dire, c'est pas normal. Moi, je trouve que c'est bien de mettre les gens face à leurs responsabilités, que de les inviter à la télévision, qu'ils puissent s'exprimer, et que, moi, je pouvais pas m'imaginer que des choses comme ça existaient en France.
Et je précise, Céline, que vous êtes étudiante en développement économique, donc c'est
voilà,
plus intéressant.
Mais vous avez raison, ils ont des papiers, ils payent des impôts, ils payent un loyer, ils payent des charges, vous imaginez. Bon, et même s'ils n'avaient pas de papiers. Comme a dit Tommy Bugsy dans mon émission la semaine dernière, c'est pas parce qu'on n'a pas de papier qu'on n'est pas un être humain.
Merci Céline. Eddy, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue Eddy, on vous écoute.
Ouais, bonjour Thierry.
Bonjour.
Bonjour Jean-Marc.
Allez-y.
En fait,
j'aimerais bien savoir où elle est, Méline, parce que je ne la vois plus.
Méline, on s'est fait piquer par Koé. Tu sais que moi, je me fais dépouiller par tout le monde. Je me suis fait piquer plein de trucs. Ben là, on m'a piqué Méline. Voilà.
C'est-à-dire que Koé a piqué Méline et Méline travaille pour lui aujourd'hui.
Oui, jusqu'à présent, je ne sais pas si on la voit en plateau, mais enfin, en tous les cas, il m'a piqué Méline. Voilà. Méline, reviens.
merci beaucoup. Jean, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour Thierry, bonjour Jean-Marc. Bonjour. Bon, tout d'abord, je voudrais féliciter Thierry pour son émission, mais surtout pour une chose, c'est la maîtrise des interviews, la maîtrise du sujet, et quand il faut être sérieux, il sait faire, et je pense que ça, c'est le gros point fort de l'émission, pour moi. Hein. Et la deuxième chose que je voudrais lui poser, c'est savoir s'il n'a pas des velléités, tout simplement des velléités d'écrivain.
Bah, des velléités.
Il a déjà écrit.
Ce qu'on apprend en lisant mon bouquin, c'est que j'en suis quand même ce livre, c'est pas un livre d'écrivain, c'est un livre d'entretien, même s'il n'est pas présenté sous une forme de question-réponse, c'est quand même un livre d'entretien avec Philippe Kieffer, mais j'ai quand même publié 5 ou 6 bouquins déjà. Alors, est-ce que j'ai envie d'écrire? Oui, c'est vrai que le fait de faire ce livre, le fait de me retourner sur ma vie, m'a donné envie finalement de me remettre à écrire. Ça fait une dizaine d'années que j'ai pas écrit, je fais d'autres conneries. Mais c'est vrai que ça reste quand même mon ambition numéro un, c'est clair.
Merci Jean.
Merci, au revoir.
Merci beaucoup, au revoir. Jo, bonjour.
Bonjour.
Jo, 27 ans, étudiant aussi. Allez-y.
Oui, bonjour Jean-Marc Morandini, bonjour Thierry Ardisson.
Allez-y.
Bonjour. Alors, suite à ce qu'a dit Jean, moi j'ai envie d'aborder un peu ce sujet, parce que j'ai lu attentivement votre livre.
Vous l'avez lu déjà?
Comment?
Vous l'avez déjà lu?
Ah bah oui, j'ai demandé à l'éditeur et je pense que tout le monde peut le faire. Et en fait, vous écrivez notamment dedans que vous avez plagié 6 pages pour faire votre livre Pondichéry.
Ouais.
Alors moi j'ai deux questions, c'est parce qu'en 94 vous déclariez dans François que vous aviez piqué...
Écoutez, alors je vais vous dire un truc, on va pas... Alors là je vais vous dire...
Si, moi ça m'intéresse...
Ben, moi ça m'intéresse pas, c'est-à-dire qu'à un moment, si vous voulez, je vais pas expier toute ma vie... Je vais pas expier toute ma vie cette histoire, je suis venu à Europe 1 en parler quand ça s'est passé, je vais pas passer ma vie à parler de ça, il y a des tas de gens... Occupez-vous des tas de gens qui copient des livres toute la journée... Et on va pas remettre le couvert avec ça, si vous voulez, je ne répondrai pas à cette question.
Bon, ben laissez-moi la poser alors. C'est que en 94, vous disiez dans François que vous aviez piqué 70 lignes, ce qui fait 2 pages et non 6, comme vous dites aujourd'hui. Et par ailleurs, j'ai envoyé avant-hier un communiqué à toute la presse pour que tout le monde en parle, évidemment.
Je sais, vous êtes un ami, monsieur, vous êtes un ami de Dieudonné. Votre site, c'est le site de Dieudonné. Et Dieudonné, je vais torcher la gueule à la télé parce que c'est un antisémite. Et si vous voulez, j'ai bien compris que c'était l'action des amis de Dieudonné parce que je lui ai fermé sa gueule à la télévision. Et j'ai eu raison parce qu'on peut défendre les Noirs comme je l'ai fait la semaine dernière sans taper sur les Juifs. Et donc, si vous voulez, j'ai vu ça sur Internet. Vous racontez ce que vous voulez. Moi, je ne discute pas avec des antisémites, monsieur.
On va poser ma question.
Non, mais alors, à partir du moment où il y a de toute façon avec que Thierry ne veut pas me répondre, je pense que ça ne sert pas grand chose
avec des antisémites.
De poser la question.
Avec les
antisémites.
Ah, très bien. Donc vous êtes prêt à un procès, hein, parce que moi, si j'ai tort.
À partir du moment où de toute façon Thierry ne veut pas répondre, je pense que vous avez dit ce que vous souhaitiez et ça ne sert à rien. À la limite, s'il y a un procès à faire, vous le ferez derrière.
Vous faites un procès, si vous voulez.
Avec Thierry. Allez. Carole, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour Carole. Bienvenue, on vous écoute.
Bonjour Thierry.
Oui, bonjour.
Je vous appelais à propos du dernier livre de Patrick Sébastien, Vitriolement. Il y a un chapitre dans Vitriolement qui explique un animateur producteur toujours habillé en noir avait emmené une de ses animatrices pour la saouler, pour lui expliquer qu'elle était virée. Est-ce que c'est vous?
Non. Non, mais j'ai appelé Patrick Sébastien, vous vous doutez bien. Oui. Il m'a dit non, mais c'est du roman, etc. Parce que moi... malheureusement, quand on s'est séparé avec Christine Bravo, ça s'est pas passé ni dans un bistrot, ni dans une boîte, ni dans rien. Ça s'est passé dans un bureau et je veux dire, il n'y a pas eu. Enfin, c'est de la fiction, mademoiselle. Ça.
D'accord.
Merci. Merci beaucoup, Carole. Thierry Ardisson, merci.
Merci d'être venu
ce matin sur Europe 1. Je rappelle votre livre, hein, Thierry Ardisson avec Philippe Kieffer, Confession d'un baby boomer, et c'est paru chez Flammarion.
Merci.
Merci beaucoup.